appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous vous rappelons que dans une mise au point faite le week-end dernier, la société Télécom Vodacom affirme que les prétendues allégations de fraude fiscale lui imputées dans l'exercice fiscal 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sont des contre-vérités non fondées, inopportunes et malveillantes. Le responsable de Vodacom affirme par ailleurs que son entreprise verse en moyenne annuelle 170 millions de dollars d'impôts, droits et taxes dans les comptes des trésors. Quel regard portez-vous sur cette affaire qui oppose l'État congolais et Vodacom? Vous avez le droit de participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez également nous rejoindre au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Polydor Basunga et Marcel Ngombombala concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
On reçoit dans ces studios deux invités représentant Vodacom, M. Godefroy Sélémani, qui est le responsable de la fiscalité de Vodacom. M. Godefroy, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons également dans ces studios, nous saluons la présence donc d'Albert Mboyo, qui est responsable de marketing. M. Albert, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors d'entrée des jeux, ce qu'on reproche à Vodacom, ce sont des contre-vérités, d'après une mise au point faite par Vodacom.
Oui, Monsieur J.R., merci pour la question. Je crois que le communiqué a été assez éloquent. Et je suis là, en fait, pour faire une mise au point, dans le sens de repositionner valablement ce dossier qui a fait trop de bruit.
Donc, question d'éclairer l'opinion.
Oui, éclairer l'opinion par rapport à tout ce qui s'était dit au niveau des allégations de fraude à la charge de Vodacom Congo.
Il y a une fraude, vous rassurer, ou non?
Ouais, je peux vous rassurer qu'elles sont fausses. Elles sont fausses, elles sont non fondées, elles sont malveillantes et inopportunes. Lorsque je parle du fait que ce sont des allégations inopportunes et malveillantes, c'est tout simplement par le fait que ces allégations émanent des services qui n'ont aucune compétence en matière
de la fiscalité.
De contrôle fiscal.
De contrôle fiscal.
Parce que, comme vous le savez, au terme en fait des dispositions de loi 004/2003 du 13 mars 2003 et du décret 12/029 du 23 août 2012, ces dispositions légales consacrent en fait le pouvoir exclusif en matière de contrôle fiscal à l'administration des impôts. Donc il est tout à fait inopportun et malveillant que des structures ne disposant d'aucune compétence en matière de contrôle fiscal puissent en fait asseoir des évaluations tout à fait creuses.
Des fausses évidences, en fait.
Ouais, des fausses évidences chiffrées. Donc voilà. Justement, vous devez comprendre que le législateur a accordé ce droit exclusif à l'administration des impôts en matière de contrôle fiscal, justement pour éviter les tracasseries du genre que nous sommes en train de vivre actuellement.
Voilà. Alors, on sait que...
Et je voudrais aussi préciser, il est important qu'il y ait dans le chef des services de l'État le respect des textes de loi et aussi une certaine limitation au niveau de la compétence, que chacun des services puisse faire l'objet d'une certaine limitation de compétence.
Parce que la compétence, c'est d'attribution.
Exactement. Justement pour éviter, pour pouvoir éviter, en fait, des conclusions fantaisistes.
Alors, nous sommes dans un domaine qui est un peu très, très, très sensible. Et beaucoup de gens n'ont pas fait cette formation de l'économie pour mieux comprendre la fiscalité, comment ça fonctionne. Mais quand vous parlez des contrôles fiscaux, Comment ça se passe concrètement dans notre pays?
Non, ça veut dire qu'il y a le système fiscal congolais...
Qu'est-ce que disent les textes?
Oui, oui, le système fiscal congolais, il est déclaratif. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une notion de confiance à la base, une notion de confiance en amont que le législateur a accordé aux contribuables. Ça veut dire que le contribuable a la possibilité de faire ces déclarations qu'on considère de bonne
Même
foi.
Même s'il faut mentir. De bonne foi.
De bonne foi.
Donc, oui, on peut mentir de bonne foi.
Non, ça veut dire que le législateur considère que le contribuable est déjà de bonne foi. Mmh. Donc il fait ses déclarations de bonne foi. Et ce n'est que par la suite que l'administration des impôts va procéder à la vérification de l'exactitude des déclarations souscrites par le contribuable. Mmh. Et de ce fait, cette vérification, c'est ce qui s'assimile, qui se définit en un contrôle fiscal et qui a des étapes, qui est réglementé et qui aboutit à une conclusion au niveau de la phase administrative.
Mmh. Alors, quand vous dites que le système fiscal est déclaratif, est basé sur la confiance, et les entreprises ou encore les contribuables les font de bonne foi, parce que les contribuables, les entreprises, aujourd'hui, quand on met en cause l'entreprise, une grande entreprise comme Vodacom, est-ce que cela se justifie?
Ça ne se justifie pas, Monsieur JR. Je l'avais dit que les allégations étaient, entre autres, en sus d'être malveillantes et inopportunes, par le fait de la compétence exclusive de l'administration fiscale.
Parce que quand
fiscale,
on évoque cinq années,
okay, attendez,
c'est quand même énorme.
C'est énorme. Mais lorsque ces allégations sont considérées non fondées et fausses, justement parce que en matière de...
Dans les contrôles, ne s'est pas fait en suivant des règles d'art, c'est-à-dire les droits.
En ce qui concerne ces exercices-là, 2013 à 2017, il est important que l'opinion retienne que pour les exercices comptables 2016 et 2017, le contrôle fiscal au premier degré est en cours au niveau de Vodacom Congo. Il s'agit d'un contrôle au premier degré sur place, où les vérificateurs polyvalents sont justement là pour vérifier tout ce qui a été déclaré par Vodacom et en fait asseoir des conclusions en tant que service attitré ayant bénéficié de cette exclusivité en matière de contrôle fiscal. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est tout à fait faux que, à ce stade du contrôle fiscal au premier degré, que l'on puisse déjà avancer des conclusions chiffrées de la part d'un service non compétent sur une matière dont ils n'ont pas la maîtrise. Il y a un problème. Et je continue. Pour les exercices 2014 et 2015, ces exercices sont en pleine procédure contentieuse dans la phase administrative au niveau de la Direction générale des impôts.
Et quelle est la durée, si vous pouvez nous éclairer, quelle est la durée d'une année fiscale?
La durée, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Donc ça va de janvier à décembre.
À décembre.
C'est très important ce que je suis en train de dire. Mm-hmm. Ça veut dire de 2014 à 2015, la procédure contentieuse est en train de suivre son cours normal dans le cadre de la procédure administrative au sein de la Direction générale des impôts. Donc, la clôture de cette procédure est sanctionnée par une décision. Mm-hmm. Soit une décision de maintien de redressement, soit une décision de dégrèvement partiel, soit une décision de dégrèvement total. Mm-hmm. Donc, il n'est pas de bon aloi de la part des services incompétents de sortir encore une fois de plus, à ce stade de la procédure contentieuse, des évaluations chiffrées.
Alors, nous rappelons qu'on ne fait pas cette émission pour influencer, parce que le dossier est déjà en instruction, ça n'appelle pas de commentaires, mais nous sommes en train d'éclairer de ce côté pédagogique aussi, parce que c'est vrai, bon nombre de gens ne maîtrisent pas les notions de fiscalité, et donc quand on parle de la fiscalité, tout de suite, on pense à la fraude, on pense au vol, et on indexe les uns et les autres, sans pour autant avoir la vérité. Alors, juste une question de curiosité, comment arrive-t-on à calculer les droits, taxes imposés aux entreprises, par exemple, de manière simple?
Non, ça veut dire que y a des taxes qui relèvent des différentes régies financières. Mmh. Et il y a le droit fiscal, en fait, qui fixe, en fait, la base imposable de...
Quelle est la base imposable?
La base imposable des impôts et des taxes. Et puis, il y a aussi le taux. Mmh. Et même l'échéance. Donc ça veut dire que tout est réglementé pour faire en sorte que lors de la souscription des déclarations, qu'on puisse le faire dans les normes de l'art fiscal, dans le respect des textes en la matière. Donc si je ne le respecte pas, il y a une sanction qui découle des conclusions du contrôle fiscal. Donc, en ce qui concerne Vodacom, Vodacom c'est une société épris de civisme fiscal. Vodacom fait partie d'un groupe coté en bourse. Vodacom a une direction de bonne gouvernance en son sein. Donc, il y a des légèretés. Il y a des légèretés qu'on ne peut pas se permettre de faire.
Oui, donc, oui, mais c'est Slimani, j'aimerais revenir à vous. Oui. Parce que quand vous dites la bonne gouvernance, là je me retourne du côté d'Albert Mboyo. Mais aujourd'hui, Vodacom est indexé dans une escroquerie et qui ne dit pas son nom, surtout en matière de M-Pesa. 0,1 dollar qu'on retire à chaque fois qu'on vérifie les soldes des M-Pesa. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne gouvernance à ce niveau?
Bonjour JR et merci pour la question. Permettez-moi d'abord de rire parce que, tu vois, ce sont les non-initiés qui aiment aborder des matières pour lesquelles ils ne maîtrisent pas et non qu'ils maîtrisent. Donc, déjà, ce que je vais dire déjà à l'opinion, c'est que Vodacom est un commerçant. Tu comprends? Et un commerçant, son objectif, c'est faire des bénéfices. Pas des bénéfices malhonnêtes. Parce que Vodacom ne fait pas des bénéfices malhonnêtes. Alors, les gens qui sont en train de dire que Vodacom est en train de voler leur argent parce que quand ils sollicitent les services vérification de la balance, Vodacom facture ça, je dirais que ce sont des gens qui sont mal intentionnés. Tenez, si tu as déposé ton argent dans PESA, automatiquement après que tu l'aies déposé, un PESA te donne ce qu'on appelle le statement. C'est-à-dire qu'il te donne la synthèse de ta balance. Par exemple, si je mets 10 dollars, ils vont me donner un SMS qui me dit dans ton compte il y avait 0 dollars et tu viens d'ajouter 10 dollars, on te donne la date, on te donne la référence. La même chose, si j'achète les crédits par M-Pesa, on va me dire voilà, monsieur Albert, dans ton compte il y avait 2 dollars, tu as acheté les crédits de 1 dollar et il te reste 1 dollar, on te donne ça. Et ce service-là est gratuitement. Alors, lorsque moi-même, sans avoir fait une transaction, je vais vérifier une balance. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est un service pour lequel on a investi de l'argent. On a mis des équipements. Vous comprenez? Et ces équipements-là doivent être amortis. Parce que si ce n'est pas amorti, les services auxquels les gens souscrivent, ils ne l'auront pas. Et quand les gens disent qu'on facture ça, ils ont dit combien? C'est l'argent qui ne peut même pas acheter un bonbon. Tu comprends? Donc ce sont juste des gens mal intentionnés. Alors, ce que je veux fixer à l'opinion, c'est quoi? Celui qui ne cache rien. Celui qui ne fraude pas. Tu connais le Congo, non? Les gens ont des copines, les gens ont des deuxièmes femmes. Et ce que les gens font, c'est que s'il a envoyé de l'argent, il efface les messages que Vodacom lui envoie. Ce sont les gens qui cachent. Alors, si tu n'as rien à cacher et que tu veux vérifier ta balance, parce que Vodacom facture, n'y va pas là-bas, retiens seulement, tu rentres dans ta messagerie, tu regardes les derniers messages que Vodacom t'avait envoyé lorsque tu avais fait une transaction et tu vas retrouver les montants qui restent dans ta balance. Donc, les gens qui ne cachent rien, ils n'ont pas besoin même de solliciter ces services-là. Mais ceux qui effacent leur message, parce qu'il a envoyé de l'argent à une copine, il a peur que sa femme découvre à la maison, il a envoyé de l'argent à une deuxième femme, il a peur que sa femme découvre à la maison, c'est eux qui retombent dans ces pièges-là. Mais comme je sais, je ne cesse de les dire. Nous sommes des commerçants, nous ne voulons pas de l'argent, nous facturons nos services, parce que ce sont des services qui rendent service au public.
Oui, mais aujourd'hui, vous, en tant que responsable de marketing, Vodacom a combien d'abonnés?
Vodacom est en train de naviguer vers les 15 millions d'abonnés.
15 millions d'abonnés.
Que nous parlons là.
Alors, si je fais des calculs les plus simples, c'est vrai que je reviendrai à M. Slimani. Des calculs les plus simples, qu'on retire à un abonné 0,1 dollar et on multiplie par 15 millions. C'est quand même énorme. C'est énorme comme bénéfice.
Je crois que je l'ai dit, nous sommes des commerçants, nous n'avons pas d'honte de gagner
de l'argent. Et combien vous payez à l'État?
Honnêtement.
Et combien vous payez à l'État?
Laissez-moi vous dire, gagner de l'argent honnêtement. Mais ce que je veux rappeler à l'opinion, c'est que à chaque transaction que vous faites, on vous donne votre balance gratuitement. Donc cessez de vous casser la tête. Quand tu as fait une transaction, tu as ta balance qu'on te donne gratuitement. Si pour des raisons inavouées, tu l'as effacée et que tu recours à ta balance sans transaction, ce service-là est facturé. Et le montant que nous demandons, elle est minus. Le montant est négligeable. Ça ne peut même pas faire l'objet des débats dès qu'on est en train de suivre.
Voilà. Alors, avant de revenir à vous, M. Albert Mboyo, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exercices fiscaux qui ont été mis en cause par les rapports de l'IGF, notamment 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Alors, qu'en est-il de l'exercice 2013? Vous avez évoqué tout à l'heure 2016, 2017, également 2015 hein, et 2014. Alors, 2013, qu'en est-il? Juste... Parce que oui, quand je fais les calculs avec 15 millions d'habitants, pardon, 15 millions d'abonnés, vous ne voulez pas parler de 15 millions d'habitants, 15 millions d'abonnés, et finalement, combien on taxe par abonné sur le plan fiscal aujourd'hui?
C'est vrai, j'ai parlé de 2016, 2017 et 2014 et 2015. Maintenant, je vais parler de 2013, de l'exercice comptable de 2013, et qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, cet exercice a été contrôlé et même clôturé dans le cadre de la phase administrative au sein de la Direction générale des impôts. Oui, ouais, contrairement aux autres
exercices. Qui ne sont pas reclôturés.
Exactement, dans le strict respect des procédures en matière de contrôle fiscal. Alors, au terme du dit, dans le cadre en fait de cette procédure de contrôle fiscal, vous devez retenir qu'au terme d'un contrôle, l'administration des impôts établit ce qu'on appelle un avis de redressement provisoire. Ça veut dire que c'est un rapport provisoire. Il est très important pour moi de souligner le caractère provisoire. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le législateur qui l'a inventé, par rapport à l'article 37 de la loi 004/2003 du 13 mars 2003. Ça veut dire que le législateur accorde à tout contribuable faisant l'objet d'un avis de redressement provisoire un délai de 20 jours. Un délai de 20 jours pour fournir ses observations formulées. Parce que l'administration veut que ces informations soient formulées, ces observations soient motivées avec des justificatifs. Alors, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Vodacom, comme j'avais dit, Vodacom, au terme, en déant les 20 jours, Vodacom a fourni,
des informations,
a formulé les observations. Et ces observations, lorsqu'elles sont fondées, considérées fondées par l'administration des impôts, l'administration des impôts est en droit d'abandonner tout ou partie des redressements provisoirement notifiés dans le rapport provisoire, excusez-moi, de la tautologie. Donc ça veut dire que un rapport provisoire ou un avis de redressement provisoire n'est pas une conclusion définitive émanant de l'administration fiscale. Donc ce qui s'était dit au sujet de 2013 est tout à fait faux, pour la simple raison que la conclusion du rapport provisoire ou le montant de l'avis de redressement provisoire était de 23 milliards. Mais c'est provisoire. Ça veut dire que Vodacom, dans les 20 jours, a fourni des observations fondées et qui ont été acceptées par l'administration fiscale. Tout ça dans le cadre du respect des procédures en matière de contrôle. Donc, l'argument détail que Vodacom a pu faire valoir, en fait, c'est l'imputation de la perte, puisqu'on avait une perte fiscale qui était admise par l'administration, de presque 77 milliards. Et cette perte, l'imputation de cette perte fiscale a contribué de manière substantielle à réduire aussi substantiellement, excusez-moi, le redressement à l'amenant, à la rabaissant, à 2,6 milliards que Vodacom a payé sans embâge, sans atermoiement. Donc, au niveau de la procédure en ce qui concerne 2013,
ne pose pas un problème.
Il n'y
a pas un problème.
Il est clos.
Il reste l'exercice fiscal 2014-2015 et 2016-2017.
Voilà.
Qu'on n'a pas encore clôturé.
Et comme vous le dites vous-même, dites-moi sur base de quel principe.
Alors,
fiscal,
simplement,
sur base de quel principe fiscal on peut arriver à évaluer
on va revenir à
les allégations de fraude contre Vodacom.
Les paysans qui nous suivent à Malemankoulou ou encore à Gnocchi aimeraient se faire une idée très claire. 15 millions d'abonnés, et si un abonné, à un abonné, on récupère un dollar, c'est que, effectivement, en tant qu'une entreprise commerciale, Vodacom fait énormément de bénéfices et des conséquences. Il paye énormément aussi à l'État. On va revenir à vous, le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité, émis le vœu de participer dans cette émission et apporter aussi leur contribution. 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Monsieur Albert, vous êtes à Kalemi. Alfred, vous êtes à Kalemi.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Albert, vous avez suivi l'actualité. Quel est votre regard, le regard que vous portez sur cette affaire qui oppose l'État congolais et l'entreprise Vodacom?
Merci pour la considération. À mon humble avis, je pense que le problème en est qu'à République démocratique du Congo, les impôts, droits et taxes se poursuivent selon qu'on est une entreprise boutique ou société ou encore organisation riche ou pauvre. Et les entreprises riches sont des lieux pour les gens chargés de la récolte de ces derniers de trouver une vie paisible et de récolter plus. Or, le paiement des impôts, droits et taxes est une obligation pour toute catégorie de société de payer régulièrement et sans discrimination. Ce qui n'est pas le cas au Congo, car les unes payent plus et les autres payent moins. Moi, je pense que la société Vodacom n'a pas tort de déclarer que les allégations à emporter contre elle soient infondées. Ceci pour dire que la faute incomberait à 90% à l'État congolais. Et cela se justifie par le manque de contrôle, selon moi, et de suivi de ses agents. Merci beaucoup.
Merci Alfred, vous rejoignez donc le point de vue de notre invité tout à l'heure, c'est Slimane qui évoquait les contre-vérités et pratiquement des imputations non fondées, inopportunes et malveillantes. Et là, vous avez insisté que la responsabilité incombe à 82%, en tout cas selon vos calculs, à l'État congolais. Eddy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs. Monsieur Eddy, vous êtes avec nous?
De la radio Okapi.
Vous avez la parole, Eddy. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup pour ce sujet si pertinent. En rejoignant le prédécesseur, mais il y a quand même lié de dire une certaine vérité, parce que nous l'avions souligné que nous sommes d'abord ici devant le principe de la double victimisation. C'est-à-dire, la première victime dans ce qui se passe, c'est l'État congolais, et la deuxième sont les consommateurs. Alors, cher Lungembo, par rapport au rapport établi par je ne sais quelle agence, j'ai perdu de vue, mais vous allez vous rendre compte que l'entreprise Vodacom doit à l'État congolais un pourcentage qu'on ne peut même pas parvenir à calculer. Et les rapports là est tiré d'où? Ce qu'on paye à l'État congolais là est tiré d'où? Comment on parvient à le calculer? Vous avez souligné la question, donc vous avez posé une question à laquelle vous n'avez pas obtenu une réponse. Vous avez demandé, admettons que si vous, comme vous avez 15 millions d'abonnés, si vous parvenez à prendre un dollar à chacun, et ils ne vous ont pas donné la réponse. Et face à ce silence, nous comprenons qu'il y a quand même à dire, Gérard Lungembo, aujourd'hui par 15 millions d'abonnés, moi je suis client de Vodacom. Lorsque vous empruntez juste 5 unités, vous empruntez 50 unités, vous remboursez. Donc le taux de remboursement, c'est 5 unités. Mais faites seulement un petit calcul. Si vous avez 15 millions d'abonnés qui ont pris juste 5 unités, qui ont remboursé avec 5 unités de taux d'intérêt. Vodacom bénéficie combien? Est-ce que l'État congolais parvient à calculer cela pour trouver aussi comment il peut facturer ça? Aujourd'hui là, lorsque vous avez votre argent dans les comptes M-Pesa, parce que moi aussi je suis possesseur d'un détenteur d'un compte M-Pesa, vous pouvez garder votre argent pendant plus de mois sur M-Pesa. Il n'y a aucun intérêt. Mais pour transférer votre argent, celui qui va récupérer, on coupe l'argent. Est-ce que l'État congolais calcule
les frais de transfert?
On ne calcule pas. On ne calcule pas. Aujourd'hui, si vous activez 100 unités, Vodacom vous donne une validité. Après cette validité-là, c'est vous qui perdez. Même s'il y a perturbation, c'est-à-dire que c'est tout, vous toujours la victime. Mmh. Comment la loi du droit, du code civil congolais n'est pas applicable même.
Donc vous estimez que dans cette affaire, en tant qu'entreprise commerciale, Vodacom tire énormément de dividendes, et surtout en matière de MPSA, on va revenir avec le responsable du marketing. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Ingénieur Pur Moussafiri, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour à tous.
Quelle est votre réaction?
Oui, à part, moi je dirais à part Vodacom, il y a aussi RTL qui est des agents plus que Vodacom même. Maintenant, pourquoi le gouvernement ne veut pas poursuivre ce genre de choses? Exemple de Vodacom que je vais donner. Quand tu veux envoyer de l'argent et recevoir de l'argent, il y a quelque chose qu'on coupe. Et ici, au niveau de la ville de Goma, quand tu veux envoyer de l'argent, on te demande quelques montants à payer, ça dépend de l'argent que tu vas envoyer. Et quand tu vas retirer aussi, il y a quelque chose qu'on va couper. Mmh. Est-ce que, où va tout cet argent-là? Depuis 2013-2014 jusqu'à là où nous sommes, où vaut cet argent-là que nous payons à ces sociétés de
Vodacom? Donc si je comprends bien votre souci, à quel niveau Vodacom publie ce qu'il paye à l'État? Est-ce que sur son site, ou encore il y a des cadres légaux où il publie ses résultats pour que ça soit vérifié par la population qui est du reste le consommateur, le premier consommateur de services rendus par Vodacom. Merci beaucoup Monsieur Pierre Moussafiri d'avoir appelé des Goma. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également interagir avec nous sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Et nous poursuivons avec vous cette émission autour de Vodacom qui est, disons, mise en cause par un service de contrôle fiscal qui impute Vodacom, qui impute en fait une fraude fiscale à Vodacom. Alors, vous avez parlé au niveau de Lubumbashi, Goma et Kalemie. Alors, M. Selemani, on revient à vous. C'est vrai que tout à l'heure, on évoquait la question de double victimisation. On se rend compte de cette affaire, la première victime, c'est l'État congolais, et la deuxième victime, parce qu'on a évoqué également la question du MPSA, c'est le consommateur. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, effectivement, je pense que lorsque il y a des services sans compétence exclusive qui s'immiscent dans une matière qui n'est pas de leur ressort, ça pose un problème. Ça pose un problème dans ce sens où que normalement, il doit y avoir une limite dans la compétence. Et lorsqu'il n'y a pas de limite dans la compétence, on arrive en fait à des déclarations erronées qui en fait impactent négativement le climat des affaires. Parce que je vous ai démontré tout à l'heure que il y a fausseté, il y a rien d'évalué jusque-là par le service attitré de l'administration des impôts.
N'a pas conclu.
Donc, lorsqu'il y a des allégations comme ça, ça heurte en fait l'opinion. Or, l'opinion, en fait, ce sont nos abonnés. Donc, ça impacte au même moment négativement le climat des affaires. Vodacom, c'est une société phare. Donc, c'est l'État congolais qui en pâtit. Et quand j'ai dit l'État congolais qui en pâtit,
mais est-ce que vous publiez les paiements, les paiements, les droits à l'État congolais?
C'est la transparence chez nous. C'est la transparence. Même dans le mode de paiement, c'est vraiment la transparence.
Et il y a un site approprié. Et comment?
Non, parce ça veut dire que
quand on voit par exemple dans le secteur minier, on dit publier ce que vous payez à l'État. Ouais. Il y a des cadres appropriés pour
ce que légales. Nous publions à l'État est versé dans le compte du Trésor. Ou dans des comptes bien réglementés.
Mais pour la consommation publique.
Ok, pour la consommation publique.
Voilà.
Là, par exemple, le chiffre que je suis en train de vous donner, de dire que, en moyenne, sur les trois dernières années, en moyenne annuelle, Vodacom a dû payer dans le compte du Trésor. Ok?
Et pour les exercices déjà clôturés.
Oui, pour les exercices. Non, c'est une moyenne annuelle. Well, 170 millions de dollars. 170 millions de dollars. Et ces 170 millions de dollars ça se rapporte à un revenu pratiquement de 471 millions de dollars annuellement. Donc, lorsqu'on nous, on nous prête des allégations de fraude de 400 millions de dollars, qui équivaut à 85%, à près de 85 ou 90% de notre chiffre d'affaires, mais ayons quand même la notion de mesure. Ayons quand même la notion de mesure. Puisque ces genres de déclarations non fondées profitent à qui? C'est vrai que ça ne profite pas à nous, mais nous, nous sommes bien dans nos bottes parce que nous savons que nous payons correctement, comme on vient de vous le démontrer. Mais où est-ce qu'on met l'intérêt du pays? Où est-ce qu'on met le climat des affaires?
Mais jusque-là, on va revenir sur le climat des affaires. Mais jusque-là, Albert Mboyo, moi, je ne suis pas... Peut-être que je chercherai à être convaincu à la place de la population, mais la population qui nous suit, quand il entend des chiffres tels que 15 millions d'abonnés, et que dans les MPSA, par exemple, il y a un deuxième auditeur qui est revenu sur ça... Finalement, l'argent, comment gérez-vous ces mécanismes? Êtes-vous une messagerie financière ou vous êtes un service de télécom? Finalement, on ne comprend plus rien. Quand il faut retirer de l'argent ou quand il faut générer les bénéfices, par exemple, pour l'argent qui est resté pendant longtemps dans votre compte, dans le compte MPSA, c'est comme une banque que vous gérez, mais cet argent ne génère pas de bénéfices. Mais en fin de compte, quand il faut transférer, c'est des frais qu'on paye.
Merci, JR, pour la question et merci à l'auditeur pour la question. Moi, je crois que pour beaucoup de choses, c'est juste de l'incompréhension. Ok? MPSA, bien, un service est épargne. Et lorsqu'on dépose l'argent dans les comptes épargne, on peut bénéficier d'un taux d'intérêt positif créditaire. Ok? Pour celui qui ne le sait pas, au lieu de laisser son argent dans un compte simple, mettez ça dans les comptes épargne MPSA et vous bénéficierez des taux d'intérêt. Donc, ça, c'était de l'ignorance. Alors, même si on peut embrayer du côté du fisc, quand on dit qu'il y a 15 millions d'abonnés, mais il faut voir c'est quoi l'effet générateur qui va générer de l'impôt. Parce que ce n'est pas que les 15 millions d'abonnés tous les jours font des transferts. Ce n'est pas que les 15 millions d'abonnés tous les jours achètent du crédit. Donc, parmi les 15 millions, il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas, il y en a qui consomment, il y en a qui ne consomment pas. N'oublie pas, même si tu as acheté le crédit tant que tu ne l'as pas consommé, ce n'est pas encore un revenu pour Vodacom. Ce qui ne va même pas déjà générer de l'impôt pour l'État, parce que l'impôt de l'État, comme M. Godet vous l'avait expliqué, c'est un taux qui s'applique par rapport à un service bien précis. C'est pourquoi on appelle ça un fait générateur. Qu'est-ce qui génère l'impôt? Qu'est-ce qui génère la taxe? Quel est l'acte que les consommateurs posent qui va faire que l'État gagne de l'argent?
Mais les flux de consommation, ça se situe à quel niveau?
Bon, il y a
15 millions d'abonnés, oui, ça peut paraître énorme, mais les flux de consommation par jour, par mois.
JR, tu sais, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. La vraie réalité.
Ou peut-être c'est un secret.
Non, il n'y a pas de secret.
Pour échapper au fisc.
Il n'y a pas de secret. Une société comme Vodacom qui est leader. La consommation moyenne d'un abonné Vodacom est de 2,8 à 3 dollars le mois. Tu peux faire les calculs. 2,8 à 3 dollars le mois. Si tu les divises par 30 jours, ça veut dire qu'un abonné congolais moyen dépense une moyenne de 10 cents ou moins de 10 cents ou 10 unités par jour. On est un pays pauvre avec les gens censés de rêver. Comme M. Godet vous l'a dit, quand vous dites qu'on a fraudé pour 400 millions de dollars, vous d'accord, je n'ai quel chiffre d'affaires pour déjà frauder pour une année fiscale à la hauteur de 400 millions de dollars. Et sans honnête, au Congo, combien de sociétés font 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par année? Ils sont combien? On peut le compter au bout des doigts. Donc, ne nous voilons pas certaines vérités.
Mais est-ce que franchement, M. Albert Mboyo, Vodacom, c'est une messagerie financière?
MP, c'est une messagerie financière. OK? Et pour tous ceux qui font des transactions financières, que ce soit dans une banque, c'est facturé. Lorsque tu vas avec un chèque à la banque et que tu as de l'argent, on récupère quelque chose. Et la banque vit de ça. OK? Lorsque tu vas récupérer de l'argent dans les distributeurs, tu laisses quelque chose. Et ces commissions-là qui font fonctionner les banques.
Je veux ouvrir...
Et la même chose pour un peu ça.
Oui, je vais ouvrir rapidement une parenthèse que je vais fermer aussi, parce que quand on préparait cette émission, il y a des auditeurs qui nous ont demandé de vous poser la question. À chaque fois qu'il y a perturbation, j'ai déjà mes crédits, j'ai des unités que j'ai pu charger dans mon téléphone, mais après le rétablissement de la situation... Mais je me retrouve parfois ces internets, ces mégas ou encore ces gigas que j'ai achetés, mais disparaissent dans la nature et au grand dam de consommateurs. Comment vous expliquez cela?
Merci, Gérard. Voilà. Pour les perturbations
techniques. Et tout ça encore, le perdant, c'est la population.
Oui, pour les perturbations techniques, je crois que les gens qui voient, je les savent. Les gens qui ont signé le contrat pour prendre les SIM, ils les savent. Les services techniques peuvent être perturbés à tout moment par des intempéries, ça peut être perturbé par des opérations de modernisation, ça peut être perturbé par des opérations de maintenance, ok? Vodacom, c'est comme si vous direz à un fleuve que le fleuve est en train de voler de l'eau. Tu comprends? Le fleuve va voler de l'eau, pourquoi? Les unités appartiennent à Vodacom. Vodacom va les voler pour en faire quoi? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ne savent pas utiliser leur téléphone. Il y a ce qu'on appelle les actualisations qui se font de manière automatique. Et ces actualisations automatiques consomment les mégas et les gens ne le savent pas. C'est pourquoi nous avons conseillé les gens. Il y a même un service chez nous où tu peux limiter la consommation de tes mégas. Tu peux mettre, si j'ai acheté mon forfait, les hors forfaits est de zéro. Ça veut dire que lorsque tes 10 mégas que tu as acheté en forfait se terminent, tu ne vas pas aller consommer tes unités. Tu comprends? Et oui, les gens peuvent les limiter. Et les gens ne veulent pas utiliser ces
mégas. Mais est-ce que l'État congolais taxe Vodacom? Et j'y reviendrai d'ailleurs la même question à M. Selemani aujourd'hui, parce que Vodacom, c'est multiservice, hein, si je peux oser le dire. Vous avez les M-Pesa, vous avez la vente des cartes SIM, vous avez. Est-ce que l'État congolais vous fixe en tant qu'entreprise sur les services rendus à chaque service, ou vous fixe uniquement pour la consommation des unités?
C'est pourquoi M. Godet, vous parlez des codes d'impôts. Dans les codes d'impôts et des taxes, on définit les types de taxes et les types d'impôts qu'on doit payer. C'est pourquoi moi j'ai embrayé en disant des faits générateurs. Les faits générateurs, c'est que quel est l'acte que le consommateur pose qui permet à l'État de récupérer l'argent. Prenez un fait banal, la TVA. Ok? Lorsque tu vois le prix de vente des unités telles que nous facturons, il y a la TVA dedans. Si la TVA est de 16%, ça veut dire que si tu as consommé un cent en dollars d'unité, les 16% de la TVA s'appliquent. Et c'est ça l'argent qui entre dans les comptes de l'État.
Ah, mais ça, on ne le sait pas.
Hein. Mais c'est ce que nous disons. Les mortels, que les gens, que les non-initiés ne parlent pas des choses.
Parce que nous remarquons simplement, on achète les trucs et puis ça disparaît.
Voilà. Que les non-initiés ne parlent pas des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous comprenez? Chaque consommation, dans la facturation, comprend d'abord. C'est pourquoi on parle de la structure des prix.
Oui.
La structure des prix, c'est qu'à part le coût, on intègre.
Non, parce que c'est une façon aussi d'apprendre à la population tout la culture fiscale. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent toujours en victime dès lors qu'ils doivent contribuer à l'effort de services qui rend l'État.
Et là, le ministère de l'économie a du pain sur la planche. Parce qu'il faut montrer, dans chaque bien vendu, il y a ce qu'on appelle la structure des prix. Et dans la structure des prix, vous avez les taxes de l'État qui sont directement incluses, de manière à ce que lorsque l'effet générateur là est posé par rapport au barème, selon les codes des impôts, il y a la quotité de l'État qui doit être dégagée automatiquement.
Voilà, on va écouter avant de revenir à Selemani, M. Jean-Baptiste qui est à Kisangani, John Odian à Isiro et François Okunji à Kinshasa. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous, merci de nous avoir rejoint, bonjour.
Bonjour à vous, monsieur Gilles. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir associé dans ce sujet. C'est hyper important. Hier, j'ai acheté les unités et je l'ai activé à 104 mégabytes. J'ouvre à quelques secondes et on me dit que tes unités, tes mégas sont épuisés. Je pose la question, c'est par quelle magie? Je me dis, pourquoi Vodacom parfois joue de G très abusif comme ça, on les garde ces utilisateurs. Pourquoi? Je me suis posé cette question. Je change la connexion, j'achète sur RTL, c'est 4 mégabytes rapidement dans une seconde. Je me pose la question, si hier il y avait un problème, ou qu'est-ce qui s'était passé exactement sur le plan technique? L'invité, il lui parle, il dit que les utilisateurs ne puissent pas évoquer des questions dont ils n'ont pas la connaissance.
Oui. Oui, mais c'est seulement maladie. Alors, quand vous n'avez pas la maîtrise de la matière, donc il ne faut pas. Ben, alors, est-ce que vous avez la matière?
Je vais parler des acteurs. Mais monsieur J.R., nous sommes des utilisateurs.
Oui.
Nous sommes des utilisateurs, nous avons nos droits et nous utilisons ça.
Donc vous ne partagez pas le point de vue de Selemani qui dit que ce n'est pas tout le monde qui peut aborder cette question.
Non, je ne partage pas ce point de vue. Même si nous n'avons pas la connaissance à la matière, mais nos droits doivent
Mais vous pouvez comprendre de manière simple combien vous payez, combien ça vous coûte, et en des termes simples, vous pouvez déjà faire des calculs.
En tout cas, là, il y a un problème de connexion.
Oui, allez-y, nous, on vous capte très bien, 5 sur 5.
Oui, alors, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un état où les choses ne sont pas bien organisées. C'est tout ce qu'est Vodacom, parfois, j'ai sali quand même son rôle dans la communication qu'il joue à RDC. Parce que récemment, on disait il est leader dans la communication. Il est leader, bien évidemment. Nous saluons ce rôle qu'il joue. Même mon intervention ici, c'est à travers le Vodacom. Nous le saluons. Mais nous dénonçons certains comportements que Vodacom nous présente. Tout simplement parce qu'on est dans un gouvernement irresponsable. Si on était dans un gouvernement où tout est contrôlé, en tout cas, et l'acte que Vodacom parfois pose devrait être poursuivi. C'est simple. Et malheureusement, voilà. Il n'y a pas aussi...
Donc, quand vous insistez beaucoup plus sur les perturbations, je crois que nos deux invités ont pu quand même apporter quelques éclairages là-dessus. Et s'il y a des problèmes sur le plan technique, vous imaginez, il pleut et ça peut arriver. Et surtout qu'aujourd'hui, nous relançons chaque fois les débats sur la fibre optique. La question de la fibre optique, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore très engagés. Et le point d'ancrage pose encore problème d'atterrage, je crois, c'est le terme qu'on utilise. Et il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Je crois qu'un jour, nous sommes à 3G, 4G, les perturbations existent et pour faire face à ça, ça demande quand même des réponses aussi purement techniques. Nous n'avons pas tous la maîtrise de cette question. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors John Odian, vous êtes à Issiro. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour cher JR, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau de débat?
Merci pour m'associer à ce débat parce que c'est quand même... très important parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui contrôle Vodacom et tous les réseaux possibles. Ce qui est vrai, c'est que ce que l'invité vient de dire, là, nous sommes ignorants, ça c'est vrai, parce que nous sommes ignorants, nous sommes victimes de beaucoup de choses, parce que même l'État n'arrive pas à vous contrôler convenablement, parce qu'on ne sait même pas si il y a combien d'abonnés, même si vous déclarez ça, mais l'État n'a pas l'État de déclarer, de voir si réellement où vous consommez, combien. Nous sommes ignorants de tout ça.
Nous sommes mais vous avez appris qu'il y a 15 millions d'abonnés. C'est vrai que hier vous ne les connaissez pas.
Est-ce que
et vous John, vous consommez, vous personnellement, vous consommez combien d'unités par mois?
Et qu'est-ce qui se passe à nous? Nous sommes des ignorants. On ne sait même pas aux factures en fonction de quoi on a payé combien.
Mais vous payez, vous consommez, comment consommez-vous?
Nos unités. Il n'y a personne qui va intervenir. Je sais qu'avec les changements qui sont à court, on va essayer quand même que le gouvernement puisse quand même avoir son propre technicien pour essayer de contrôler le réseau. Parce qu'avec ça, on ne sait pas si on a généré pour la République combien. C'est ça que le réseau est libre de déclarer ce qu'il
veut. Alors, vous avez suivi notre invité qui a dit aujourd'hui, par exemple, il y a des exercices qui ont déjà clôturé au niveau de la fiscalité, mais d'autres, par contre, non. Alors, est-ce qu'on peut dire que, finalement, il y a de l'escroquerie ou de la fraude, comme les qualifient certaines personnes? Parce que devant un exercice qu'on n'a pas clôturé, comment on peut juger? Juger quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la fin, c'est quand même malhonnête.
Il a bien dit, c'est ce que je viens de dire, cher JR. Nous sommes des ignorants. L'invité nous a dit, nous ne connaissons, nous ne maîtrisons pas ça. C'est ce que j'ai dit.
Merci beaucoup, John Odian. Alors, François Okunji, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Merci pour m'avoir associé à ce débat citoyen. C'est un bon sujet qui relève de mes compétences. C'est-à-dire que je suis fiscaliste, je suis financier, vous le savez, je suis responsable de la déclaration de l'impôt. Je pense que ce débat, c'est un débat que la population doit être attentive à ce que nous donnons comme position, comme idée. D'abord, je salue l'invité, M. Albert Moyo et vous-même qui êtes là-bas. Je pense qu'en matière de paiement des impôts, droits, taxes et redevances, en réalité, les moitiés du Congo, nous devons savoir que le système fiscal congolais est un système fiscal déclaratif. C'est-à-dire que la société...
Mais François, notre invité l'a dit, et on le sait, en tout cas ça c'est dans les cours de fiscalité, tout celui qui fait le deuxième graduat à l'économie, les cours de fiscalité, on revient sur ça, le système il est déclaratif, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de bonne foi, quelqu'un peut déclarer même ce qu'il n'a pas, qu'il n'a pas donné comme service.
Non, mais je suis responsable du niveau de la régie financière. Je pense que quand on voit le système fiscal congolais déclaratif, c'est-à-dire que l'État donne la latitude aux opérateurs économiques de déclarer les matières imposables au fisc. Par exemple, la DGRK pour la TV de Kinshasa, DGDA, DGAD, DGI, et chez nous là-bas, il est beau à DGRK. C'est-à-dire que les opérateurs économiques doivent aller eux-mêmes auprès du fisc pour déclarer leurs matières. Et au fisc de signifier aux opérateurs économiques, voilà, par rapport à ton domaine, voilà ce que vous devrez payer comme impôt, comme taxe, comme droit et comme redevance. Alors moi, personnellement, je n'appuie pas l'État congolais dans la mesure où, si et seulement si, je ne pense pas que la société Vodacom, d'ailleurs je l'ai toujours qualifié, c'est parmi les bons payeurs, la société Vodacom, RTL et consorts. Et si aujourd'hui, il y a eu une situation à l'égard congolais dit qu'ils n'ont pas payé un tel montant. Mais l'État congolais doit vérifier dans sa gibecière, dans son répertoire, dans qu'est-ce qu'on appelle encore, qu'est-ce que nous appelons dans les listings des opérateurs économiques qui sont en règle avec l'État. Vous savez, vous pensez que les sociétés comme Vodacom là peut échapper l'État congolais dans un domaine d'axe? Non,
c'est compliqué, que l'État congolais
devrait vérifier bien donc comment son répertoire, son fichier. C'est pourquoi le gouvernement insiste beaucoup sur la numérisation de l'administration fiscale.
Parce que nous sommes en phase de la numérisation, oui.
Mm-hmm. Voilà, si le gouvernement estime que la société Vodacom a une dette, alors j'encourage la société Vodacom de donner ses preuves de paiement. Si on montre ça au fisc, si c'est authentique, je crois que le débat sera clos. Mais la société aussi doit savoir, à l'attention de la population congolaise, les gens doivent savoir qu'il existe aussi des taxations d'office et des taxations forfaitaires. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on constate que la société Vodacom n'a pas déclaré ses matières imposables dans tel ou tel domaine, l'État congolais, à travers ses fiscs, font ce qu'on appelle la taxation d'office, okay. Par exemple pour l'impôt foncier, pour la matière des missiles, par exemple pour la matière des missiles, matière des non biodégradables, quoi. Mm-hmm. Alors si on trouve que la société Vodacom n'a pas payé par exemple la taxe des missiles, c'est des matières non biodégradables, car c'est prépayé et consort, on peut lui infliger une taxation d'office avec un montant forfaitaire. Et cela pourra pousser aux juristes ou aux avocats de la société Vodacom de répliquer aussi. Lorsqu'on fait une taxation d'office, lorsque la société n'a pas déclaré dans les délais, et lorsque la société n'a pas donné tous les éléments. Et si on fait une taxation forfaitaire, on peut vous taxer 5 milliards de francs congolais.
Voilà. Je crois que moi, je me perds un peu. Merci beaucoup, François. Mais le temps peut-être de poser la question à Sélémani. Qu'est-ce qu'on appelle taxation des fiscs?
Non, il est en train de parler de taxation d'office, là. Ça veut dire que l'État constate qu'un des éléments, en fait, qui engendre cette taxation d'office, c'est l'absence des déclarations. Mm-hmm. Donc, en ce moment-là, il y a une taxation d'office que l'État essaie de mettre en place. Et en fait, il faudrait maintenant pouvoir la charge de la preuve en cette matière, en fait, incombe en fait au contribuable.
Contribuable.
Voilà. Donc,
et la taxation forfaitaire, là, c'est... C'est le mot forfait.
Non,
c'est,
il est en train peut-être de parler de la même façon, quoi, de la même chose, quoi. Mm-hmm. Oui, mais lorsque moi je fais mes déclarations en bonne et due forme, la conséquence, en fait, c'est le contrôle fiscal. Et au terme de ce contrôle fiscal, il y a l'avis de redressement. Mm-hmm. Et l'administration, en fait, démontre au contribuable comment il est arrivé à formuler cet avis de redressement, mm-hmm. à mettre en place cet avis de redressement. Et le contribuable, à son tour, a l'obligation de formuler ses observations, comme je vous avais dit, mm-hmm. par le fait qu'il s'agit d'un rapport provisoire. Mm-hmm. Donc, je pense que je suis quand même content parce que, bon, on a essayé de repositionner ce dossier. Mm-hmm. On l'a repositionné pour faire en sorte que toutes les équivoques qui étaient entretenus gratuitement.
Moi, je ne reviens pas d'abord, parce que comme c'est déjà en instruction, mais beaucoup plus éclairer la lanterne des uns et des autres sur quelques notions. Parce que finalement, c'est vrai, c'est une matière, quand on dit, bon, tel a volé, tel est accusé de fraude fiscale, et surtout que c'est une matière qui demande à ce qu'on ait vraiment l'expertise, et quand on n'en a pas, on se perd. Mais vous avez parlé de la base imposable, vous avez parlé du taux et de l'échéance. Mais moi, la question, quelle est la différence entre la base imposable et les taux?
Non, la base imposable, en fait, c'est en fait le montant, ok, l'assiette de l'impôt, ok, sur laquelle s'applique le taux. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice.
Éclairez un peu la lanterne, par exemple.
L'impôt sur le bénéfice.
Prenons le cas de Vodacom.
Oui, je prends le cas de Vodacom. Mmh. Par exemple, pour l'impôt sur le bénéfice, la base de l'impôt sur le, c'est le bénéfice fiscal. Et le taux, actuellement, c'est 30%.
Prenons 100 abonnés.
Non, les calculs ne se font pas comme ça. Les calculs ne se font pas comme ça. Ça veut dire que lorsque la société dégage à la fin de l'année ce qu'on appelle un bénéfice comptable, et comme vous le savez, sur le plan comptable, toutes les charges sont prises en compte. OK ? Maintenant, l'administration, de par les textes à la matière, il y a des charges que l'administration recuse. Mmh. Donc ce sont des charges non admises fiscalement. Mmh. Parce qu'en fait, le but du législateur, c'est quoi? C'est de pouvoir dans la mesure du possible, que le bénéfice fiscal soit le plus élevé possible. Donc, le bénéfice fiscal, dans le cas de l'impôt sur le bénéfice, c'est ça en fait la base imposable de l'impôt sur le bénéfice qui est de 30%. Et l'échéance en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice, c'est en fait au 30 avril de chaque année, mais en rapport avec les résultats ou le bénéfice fiscal qui se dégage ou les états financiers de l'année antérieure. Donc voilà un peu comment les choses peuvent se passer, mais je crois qu'on n'est pas là pour essayer de...
En termes simples, pour que les gens comprennent, voilà. Tu vois, c'est par exemple quand j'avais parlé de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, quand l'État dit que la TVA est de 16%, ça c'est un taux, ok. Maintenant cette taxe-là de 16% qui est le taux, il va s'appliquer sur quoi? Tu comprends? Il va s'appliquer par exemple, lorsque moi Albert, j'achète mes unités, de 1 dollar, c'est ça la base, on va appliquer les 16% sur les 1 dollar. Là, les 1 dollar devient la base sur lesquelles on va calculer les 16% de la TVA. Tu comprends?
Et c'est ce qui fait qu'il y a des montants qu'on a évoqués là-bas, où on a dit, bon voilà, 450 milliards, millions de dollars détournés, bon pas détournés, pertes fiscales au niveau de l'État, donc c'est là le problème. Alors on revient sur les perturbations, on revient sur les services rendus par Vodacom aujourd'hui auprès de la population, et vous avez suivi également les auditeurs, M. Albert Mboyo, combien sont inquiets de dire que voilà, finalement les services, il est loin d'être de qualité, mais Vodacom exige beaucoup aux consommateurs.
Bon, ce que je dois dire aux gens, peut-être, les gens exagèrent un peu, vous comprenez.
D'abord, les 3G n'a pas donné les résultats, les 4G, finalement, c'est encore compliqué.
Bon, moi, je ne vais même pas entrer dedans parce que là, on va parler des fréquences, tout et tout. C'est encore la matière qui va perturber vraiment le public. Ce que je veux dire au public, c'est que les réseaux de télécommunications, hormis Vodacom, ce sont des services techniques. Et tout service technique est sujet à des perturbations. C'est ça que les gens doivent retenir. OK? Un service technique qui opérerait à 100% sans perturbation au monde n'existait pas. C'est pourquoi déjà, il y a des maintenances. C'est pourquoi il y a des sociétés qui viennent réparer, faire des réparations. C'est pour réduire l'effet des pannes, l'effet des perturbations. Alors, ce qui est mauvais, c'est qu'il y ait des perturbations qui perdurent. Vous comprenez? Alors, du côté de Vodacom, ce que nous devons rassurer les gens, c'est que nous faisons un effort quand il y a ces perturbations qui sont sujets, qui sont conscients à la fonctionnalité normale d'un service technique, qu'on réduise les délais de réparation, les délais d'intervention pour que notre service soit assuré à 100%. Je peux prendre un fait. Les gens oublient. Déjà, nous-mêmes, dans nos maisons, on n'a pas de courant. Est-ce qu'ils se posent la question comment les réseaux de télécommunications font pour pérenniser les services? Est-ce qu'ils se posent la question? J'y ai. Il y a des endroits où nous amenons les carburants par avion. Je te le dirai. Il y a des endroits où, par véhicule, vous faites 3-4 mois. C'est-à-dire, un site peut même seulement tomber parce que vous n'arrivez pas à ravitailler les sites parce qu'il n'y a pas d'accès. Toute la partie de l'Est, c'est des zones où il y a des rebelles, où l'accès est difficile. Et tout ça peut perturber les réseaux. Ça veut dire perturber la disponibilité des réseaux. Mais nous faisons notre effort en termes de couverture, en termes de pérennité des services, que cela ne dure pas. Ça, c'est la garantie qu'il faut qu'on donne à ses abonnés. Ce n'est pas par hasard qu'on est à 15 millions. Déjà, nous font confiance. Et on fait confiance à un service qui fonctionne. Et vous-même, la Radio Capi, toutes vos émissions en direct, parce que Radio Capi couvre tout le Congo.
Et en passant, nous félicitons d'ailleurs Vodacom, qui vient à l'appui à Radio Capi à un certain moment pour nos émetteurs, dans des zones qui ne sont plus couvertes par la MONUSCO aujourd'hui. C'est vrai, nous pouvons prendre là où il y a des engagements, le désengagement de la MONUSCO, notamment à Kisangani. Aujourd'hui, nos antennes, nos émetteurs sont soutenus par les antennes de Vodacom. En tout cas, merci beaucoup pour ces coups de chapeau pour tout cela. Mais à moi, ça ne vous dédouane pas de pouvoir sécuriser les consommateurs à qui vous rendez quand même service. Nous avons suivi les consommateurs qui se plaignent. Aujourd'hui, on sent que même le M-Pesa n'est pas sécurisé. Tous les services-là n'est pas sécurisé. Finalement, ils sont victimes des vols, soit des unités, soit de l'argent.
Bon, les vols d'argent, moi je dirais, ça c'est une question d'éducation personnelle. Si les réseaux de télécommunications ont pensé que tout détenteur d'un téléphone doit avoir un code PIN, un code de sécurité, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on sait que les fraudes viendront. On sait que les malfrats chercheront à prendre ce qu'il y a dans votre téléphone. De quand vous dites là, mettez votre code secret. On l'appelle secret parce qu'on ne doit pas l'avouer ou le dévoiler à quelqu'un d'autre. beaucoup de gens ne suivent pas ces instructions-là. Il y en a qui vont faire créer leur compte PESA par d'autres personnes. Lorsque quelqu'un d'autre crée un compte PESA, il te donne le code d'accès. Ça veut dire lui aussi garde ton code d'accès. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, on doit faire attention à ça. Regardez aujourd'hui, chaque opération d'un PESA pour envoi d'argent, on exige jusqu'à ce que il y a l'identité de la personne à qui tu envoies de l'argent. Mmh. Parce que c'est la sécurité. Parce que c'est le nom qui apparaît. N'est pas le nom de la personne à qui tu vas envoyer de l'argent. Ça te permet d'annuler l'opération et de ne pas perdre ton argent. Donc, les gens doivent faire attention à toutes ces petites petit choses, détail. Mais mmh. c'est susceptible.
Les diables sont dans les petits détails. Il faut vraiment faire attention parce que finalement, on sera victime de sa propre turpitude ou encore de sa propre méconnaissance de certaines réalités. Alors, on va terminer cette émission. Le temps qu'on nous balance les derniers... indicatif. Monsieur Selemani, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vodacom n'est pas impliqué dans cette vol, dans cette fraude fiscale, parce que en ce qui concerne l'exercice fiscal 2013, l'exercice est clos, il n'y a pas, les résultats ont été transmis, l'argent a été versé dans les trésors, mais entre 2014 et 2017, l'exercice n'est pas encore clos.
Exactement.
C'est ce que moi j'ai voulu comprendre.
Voilà, donc en ce qui concerne...
Je ne sais pas si je suis dans les bons et que le même public qui nous suit en ce moment comprend les choses comme moi j'ai...
Non, c'est tout à fait, vous avez essayé de résumer la chose. Donc en ce qui concerne 2014 jusqu'à 2014 à 2017, l'exercice est encore, le contrôle est encore en cours. Donc la procédure de contrôle en cours. Pour 2014-2015, nous sommes en pleine procédure contentieuse au sein de la phase administrative des impôts. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été faites au niveau de l'administration fiscale. Donc 2013, c'est clos. Et quand bien même il y aurait eu un problème de fond ou de vice de procédure, je pense que l'administration des impôts est suffisamment organisée de telle sorte que, en son sein, il y a une inspection des services qui est en fait qui a la charge de faire des contre-vérifications. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle un contrôle fiscal au second degré. Et cela n'avait pas eu lieu justement parce qu'il n'y avait aucune dénonciation dans le sens d'un manquement au niveau du fond et de la forme. Voilà.
Voilà. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Monsieur Godefroy Selemani. Nous rappelons que vous êtes responsable de la fiscalité de Vodacom. Et nous disons également merci à Albert Mboyo, qui est responsable du marketing et de la même entreprise. Merci de nous avoir honoré de votre présence et surtout d'avoir apporté ces précisions sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Nous allons revenir à vous dans un autre débat. Pourquoi pas, lorsque les gens continueront encore à se plaindre sur la question de MPSA ou encore d'autres services rendus par Vodacom, nous ne manquerons pas de vous appeler. N'hésitez pas à répondre à notre invitation pour éclairer la lanterne des uns et des autres, surtout que nous sommes partenaires.
Merci, voilà. Nous sommes disponibles.
Merci beaucoup à toute l'équipe également qui a concouru à la production de cette émission, Polydor Basunga et Marcel Ngombombala. Merci également à vous tous qui avez participé de manière religieuse dans cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. À tous et à chacun, je souhaite une suite excellente de nos programmes sur Radio Okapi. Et on prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. À très vite.